Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Alors on la craignait, en tout cas pas moi, hein. Moi je l'appelais de mes voeux, l'inflation de second tour, une inflation tirée durablement par la hausse des salaires comme dans les années 70, mais selon l'Organisation Internationale du Travail, les salaires ont augmenté dans la plupart des pays, certes, mais moins que l'inflation, et cette augmentation est en train de ralentir. Éric Heyer, d'abord, est-ce qu'il y avait un risque de spirale? Est-ce qu'il n'y a plus de risque de spirale? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle?
Alors sur le risque de spirale inflation-salaire, bon, le risque, ça fait un petit moment, c'est depuis la fin des années 80, que l'indexation n'est plus unitaire. Donc aujourd'hui, enfin avant la crise, c'était à peu près 0,6, c'était pas 1. Donc on savait que le risque était assez faible. Mais tout de même, il faut pas encore crier victoire, me semble-t-il, parce que il va y avoir de l'inflation un peu de deuxième tour qui n'est pas liée au salaire, mais qui est liée au prix de production. Quand on parle d'inflation aujourd'hui, c'est l'inflation des prix à la consommation.
C'est ça.
Ça tourne en France, admettons, à 6% et aux alentours de 8,5% en Europe. Mais quand vous parlez d'inflation des prix à la production, là, l'inflation est bien plus importante. Ça tourne aux alentours de 17% en France, 20% ailleurs. Et donc, ça va être ça, l'inflation de second tour, c'est que les prix de production aujourd'hui n'ont pas encore diffusé dans les prix à la consommation. Et donc là, les entreprises vont petit à petit mettre cette inflation des prix de production dans les prix de consommation. Donc attention, l'inflation va être encore maintenue par ça. Le problème, c'est le pouvoir d'achat des salariés. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des salariés est amputé aux alentours de 2,5-3% dans tous ces pays. Bon, mais voilà.
Attendez, quand vous dites dans tous ces pays, moi je croyais que c'était principalement, alors j'ai vu des chiffres, c'était 7,5% en Grèce, 5% en Portugal, en Espagne, mais pas nous.
Nous c'est 2,5%.
C'est 2,5% en France?
Là, regardez, si vous prenez les chiffres de 2022, fin 2022, les salaires ont progressé de 4,2, 4,3, ça dépend de votre catégorie, avec une inflation à 6.
Bon, ben voilà, vous avez un. D'accord, mais est-ce que ça tient compte, par exemple, des boucliers tarifaires, des aides?
Alors oui, l'inflation, oui. Vous voyez, les boucliers, ça a permis d'avoir une inflation plus basse. D'accord. Et en fait, si vous voulez avoir un ordre d'idée,
j'avais l'impression, alors je me trompe, sûrement, que le pouvoir d'achat des Français en 2022 n'avait pas baissé.
Ah, parce que vous n'avez pas lu l'excellente note de l'OFCE qui est sortie cette semaine.
Trop à gauche pour moi.
Oui, qui montre que justement, effectivement, le pouvoir d'achat a été en hausse en 2020 et 2021, mais malheureusement en 2022 et en prévision 2023, il faut être méfiant parce que c'est une prévision, globalement, il va être en baisse et ce qu'on a gagné en 2020-2021, on va le reperdre en 2022-2023 à cause des salaires, justement. Et c'est les salaires qui ont progressé moins vite que l'inflation. Mais oui, c'était un peu voulu par justement les gouvernements au sens large. C'est-à-dire qu'on voulait pas effectivement que les salaires progressent comme l'inflation et donc du coup que l'inflation progresse et monte à 10%. Donc c'était voulu.
Michel Rumi, l'inflation de second tour, c'est plus un risque ou Eric
ce qu'a dit Eric, mais la difficulté après, ça sera que le fait, c'est que les entreprises risquent d'être prises en étau avec les coûts de production et pas la capacité de pouvoir augmenter les salaires. Parce que si on augmente les prix, il y aura des difficultés de déboucher pour elles et donc du coup des baisses de chiffre d'affaires, etc. Et donc la capacité de remonter les salaires va se poser. Et donc on risque d'avoir des tensions à ce niveau-là. La question, c'est est-ce qu'on aura une forte répercussion ou pas? Ça dépend aussi des entreprises et des secteurs.
Alors, est-ce que c'est pas un peu du pipeau tout ça? Parce que nous, et je vais m'adresser aux gérants, même si c'est de la macroéconomie, parfois ils comprennent quelques trucs. les entreprises, quand même, elles ont énormément répercuté les hausses. Et elles les ont souvent amplifiées, mais c'est pas grave. Je veux dire, donc on le voit dans les résultats des entreprises, non, Louis de Montalembert, on le voit quand même.
Oui,
les marges sont pas du tout sous pression.
Les marges sont à des niveaux absolument records, mais en France, en Europe, dans le monde.
On a c'est pour ça quand Eric dit qu'on n'a pas répercuté.
C'est le second tour, et ça, c'est le premier tour.
Voilà, donc effectivement, comme les entreprises ont pu augmenter leurs prix, en tout cas, nous, c'est ce qu'on voit quand on regarde les comptes des entreprises, et notamment grâce à la surépargne qui était là précédemment, et puis dans des secteurs assez spécifiques comme l'automobile, où on n'a jamais parlé de pricing power, tout d'un coup, on a eu des hausses de prix qui étaient extrêmement importantes. Et donc, on a effectivement des entreprises aujourd'hui qui ont des marges historiquement hautes.
Et c'est très intéressant, Virginie, c'est que une des thématiques de l'investissement, c'était de rechercher des boîtes qui avaient du pricing power. Et on s'est aperçu, comme l'a dit Louis, que des boîtes dont on se disait, bon, elles n'ont pas de pricing power, finalement ont augmenté les prix et ont eu du pricing power.
Ah oui, il y a une qualité d'exécution dans cette période pandémie et après pandémie qui a été exceptionnelle d'un point de vue des sociétés. Mais pour revenir sur le marché américain, sur le sujet salaire et hausse de salaire, on est là sur un panorama différent parce que on a des secteurs qui sont encore en tension, en forte tension, et donc qui nécessitent des hausses de salaire. Et puis vous le savez, de l'autre côté, vous avez des secteurs qui ont été largement investi recruté et qui maintenant va, on parle de la techno évidemment, qui là on va connaître plutôt un tassement. Donc il y a une espèce de rééquilibrage qui est en train de se faire, mais attention parce qu'aux États-Unis vous savez, vous avez une flexibilité sur le salaire qui est bien plus importante que nous, ce que nous avons notamment en France.
Non, puis je suis d'accord avec ça. Juste un point, c'est que là où peut-être on diffère, c'est que quand on regarde la bourse, on regarde qu'une toute petite partie de l'économie. Donc forcément, la vision que j'ai énoncée sur les marges qui sont historiquement hautes concerne un bout de l'économie qui sont...
C'est ça le sujet. En fait, c'est qu'on ne regarde pas les bonnes entreprises.
C'est qu'il y a une hétérogénéité. C'est qu'il y a une hétérogénéité à la fois dans les entreprises et sectoriellement. Et donc, on voit des secteurs qui aujourd'hui se portent beaucoup moins bien que d'autres. On voit, mettons, les matériels de transport. Ils sont aujourd'hui à 35% de moins de production qu'avant crise. Vous voyez, alors qu'il y a des secteurs comme les services financiers ou un certain nombre de services de transport qui sont 10-12% au-dessus du niveau d'avant crise. Donc, il y a beaucoup d'hétérogénéité. Bah, le chiffre quand même qui est les prix de production ont augmenté de 17% alors que les prix de consommation n'ont augmenté que de 6%, ce chiffre-là. Donc il va bien falloir qu'on comprenne quel est l'écart et est-ce qu'il n'y aura pas cette diffusion à un moment des prix de production au prix de consommation. L'autre point qui concerne la France, c'est qu'on n'a jamais créé autant d'emplois. Et même la productivité, si on le regarde de façon très froide, a baissé. Alors vous voyez, c'est très compliqué de faire beaucoup de marge. De faire beaucoup de marge si votre productivité baisse. Donc moi, il me semble que attention, dans certains secteurs, les marges, alors c'est ce que nous dit l'INSEE, mais l'INSEE après nous dit, attention, les marges par secteur, ne les prenez pas trop avec certitude, on va les réviser. Mais vous regardez, dans matériel de transport, construction, et j'en oublie un troisième.
Mais c'est vrai qu'on le ressent pas, la bourse.
C'est extrêmement
faible. On le ressent pas dans les entreprises, même dans les small et mid-cap. C'est-à-dire que je parle pas que des très larges entreprises, c'est quand même assez étonnant. Est-ce qu'on a ce déséquilibre qu'on avait, qui poussait les salaires à la hausse aussi, du fait des offres d'emploi non pourvues, est-ce que ça c'est en train de se résorber du fait d'une certaine décélération de l'économie ?
Non, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la productivité des salariés. Et donc la problématique, c'est que
en France ou en général ?
En France. La France a réduit sa productivité depuis le passé. Et en fait, aujourd'hui, on est, je parle au niveau macro, je précise. Ouais. Donc ce qui se fait, c'est que, et en même temps, on a des besoins d'augmentation de salaire du fait de l'inflation. Et donc il va y avoir un hiatus. À un moment donné, ça va pas se faire parce que de manière générale, une augmentation de salaire passe par la productivité. Et donc on va à un moment donné,
donc il
va
plus de pression sur les entreprises.
Voilà, plus de pression, et donc ça va poser un problème après de dire il faut que vous dégagez des marges, et il faut que d'une certaine manière que les travailleurs soient plus productifs.